Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à la recherche et plus précisément à la place de la science dans la société. Ce rôle majeur est contesté quand la négation de la réalité provoque des ravages, comme on l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid, avec des décisions politiques hasardeuses et des réponses irresponsables à la maladie. Cette question, à quoi la science doit-elle servir, est posée en France et ailleurs. Elle a pris une plus grande acuité avec les décisions ravageuses prises en rafale par Donald Trump. Pour nous en parler, j'ai invité Olivier Coux, que je remercie d'être venu au micro de Divergence.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS depuis 2008, après avoir réussi le concours de chargé de recherche en 1997. Votre parcours vous a conduit à l'Université de Lyon 1 pour une formation en biochimie, à l'Université Paris 7 pour une thèse à l'Institut Jacques Monod et à Boston pour un vrai stage de 5 ans à la Harvard Medical School. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'action Cost ProteoCure, qui rassemble près de 400 équipes de chercheurs dans le domaine de l'expression des protéines. Alors, éclairons nos auditeurs, M. Coux, qu'est-ce que c'est que ce champ de recherche et quelles en sont les applications médicales ?
Alors, juste une précision, le projet COS, un projet européen.
Européen, oui.
Alors, notre domaine sur lequel on a décidé de se réunir et qui effectivement regroupe plusieurs centaines de chercheurs à l'heure actuelle, c'est le domaine de la régulation de l'expression des protéines. Alors les protéines, on va dire pour faire simple que ce sont les constituants, les acteurs dans la cellule, ceux qui permettent à nos cellules, de notre corps, de fonctionner.
Donc elles jouent un rôle décisif dans le fonctionnement des cellules.
Central. Il ne se passe rien sans qu'une protéine intervienne dans votre organisme et dans vos cellules. Et alors, du coup, il est très important de contrôler précisément le niveau de chacune des protéines. Et alors, pour cela, on a tout un système qui est pris en charge par des protéines qui sont spécialisées dans le contrôle de l'expression des protéines, soit en bloquant leur fonction, mais d'une manière plus systématique, en provoquant ce qu'on appelle leur dégradation, c'est-à-dire la destruction physique des protéines quand la cellule n'en a plus besoin. Et donc c'est un système extrêmement performant parce qu'il fonctionne avec une très grande spécificité. Et du coup, aujourd'hui, il y a énormément d'applications potentielles. Alors on est encore dans les stades des promesses avec des réalisations qui ne sont pas encore complètement abouties.
C'est le rôle de la recherche,
ça commence.
D'être en amont de toute
voilà.
façon.
Mais ça commence, on est un peu dans la recherche appliquée pour le coup, où justement il s'agit de manipuler ce système de dégradation des protéines pour pouvoir contrôler l'expression, précisément l'expression de protéines qui pose un problème, par exemple des cellules, des protéines qui vont favoriser le développement d'un cancer. Si on peut empêcher leur expression en les dégradant, à ce moment-là on peut espérer ralentir ou même bloquer complètement le développement du cancer.
Donc c'est un champ relativement nouveau qui était peu exploré jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années.
C'est nouveau à l'échelle un peu de l'histoire de la biologie, oui. Maintenant, c'est quand même un domaine qui a démarré il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années, on va dire que c'était une grande découverte, en fait, parce que pendant longtemps, les biologistes s'intéressaient aux mécanismes de synthèse, comment les choses sont faites, mais alors comment elles étaient dégradées, c'était une espèce de trou noir qu'on n'étudiait pas vraiment. Donc c'était une grande découverte de s'apercevoir qu'en fait, il y avait une machinerie extrêmement sophistiquée pour prendre en charge ce processus. Et alors depuis 30 ans, on décortique. Et voilà, maintenant, on en est au point où on maîtrise suffisamment de choses, on comprend suffisamment de choses, même si bien sûr, il en reste énormément à comprendre, pour pouvoir espérer manipuler de manière artificielle ces systèmes-là. à des fins thérapeutiques ou à des fins biotechnologiques.
Très bien. Alors, pour mieux vous connaître, pourquoi avez-vous choisi d'être chercheur? J'imagine que quand vous étiez, je sais pas, au lycée, au début de vos études, le choix n'était pas fait, mais à un moment donné, vous avez choisi cette voie et vous y avez fait un parcours que j'ai résumé.
Alors, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Si je suis honnête, je suis obligé de dire, quand j'étais petit, je voulais être pompier, comme beaucoup de garçons. Mais moi, c'est quand même une vocation assez précoce. Je sais pas, j'aime bien résoudre les problèmes, j'imagine. Et puis, je suis d'une culture, on va dire, on a toujours attaché pas mal d'importance à jouer un rôle positif dans la société. Et pour moi, c'est une contribution, enfin, la recherche en général, je ne parle pas de mon cas particulier, je ne suis qu'une goutte d'eau dans tout ça, mais la recherche en général, je pense qu'elle répond à un besoin fondamental de l'humanité, qui est comprendre les choses, comprendre comment le monde est fait. Et en ce sens-là, je me sens partie de
cette démarche.
Voilà, de cette démarche.
Alors, c'est excellente introduction que nous allons développer tout à l'heure. Mais avant d'y venir, vous le savez, avant de parler de vos activités, racontez-nous votre Montpellier. Comme simple habitant, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, Olivier Coux, quels sont à Montpellier les lieux que vous aimez bien, pas nécessairement ceux qui sont signalés par l'Office du tourisme, mais qui vous plaisent, quoi, où vous allez vous balader ou autre?
Oui, alors là, moi, je suis pas sûr que je vais être très, très, très prolixe sur la question. Je suis un Montpellierin d'adoption. Alors maintenant, ça fait
28 ans.
Oui, une trentaine d'années. Donc, malgré tout, je dois dire que je suis pas un fin connaisseur de Montpellier. Moi, j'apprécie globalement la ville. J'aime bien ses places remplies de monde. J'aime bien Montpellier la nuit, ses petites rues, ces places où les gens se rassemblent. Puis j'aime beaucoup les environs de Montpellier, évidemment, je pense comme beaucoup de gens.
Très bien. Et alors, vous connaissez d'autres villes, pour y avoir séjourné, ou y aller pour des rencontres scientifiques, des congrès. Qu'est-ce qui, à vos yeux, caractérise Montpellier? Qu'est-ce qui singularise ou pourrait singulariser cette ville?
Je pense que, outre le fait qu'elle est située au bord de la Méditerranée et dans le sud,
c'est déjà un signe
qui est déjà beaucoup. Elle a les charmes de beaucoup de grandes villes universitaires, des villes où, on va dire, il y a une jeunesse qui est présente et des activités autour, on va dire, de manière très générale, culturelle, de la culture, qui sont riches et variées. Avec aussi à Montpellier, particulièrement, des très beaux lieux. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, justement, la Maison des Cœurs. J'étais stupéfait qu'il y ait un tel...
Maison des Cœurs, c'est près de l'ancien hôpital Saint-Charles, c'est ça, hein?
Oui,
place,
c'est ça.
Le premier.
Donc, c'est une ancienne chapelle qui a été, si j'ai bien compris, prêtée au cœur de Montpellier. C'est une salle remarquable. Voilà, une découverte très récente pour moi.
Eh ben, très bien. Voilà un petit conseil aux auditeurs que vous venez de donner. Très bien. Alors, on va en venir à ce qui vous a conduit à ce micro. Alors, vous avez attiré mon attention parce que vous avez co-signé avec d'autres chercheurs de haut niveau une tribune publiée le 11 février dernier dans Libération et intitulée « Elon Musk, le rêve fou d'un homme pour contrôler le savoir, le réel et le monde ». Le journal résumait ainsi ce texte « En s'attaquant à la production de connaissances et toute la culture démocratique qui est en danger ». Alors, Olivier Coux, avec vos propres mots, dites-nous quelle analyse de la situation a provoqué cette alerte et quelles conclusions les signataires en ont tirées.
Alors,
exercice de synthèse.
Vaste sujet. Je ne sais pas forcément par quel bout le prendre. Alors, évidemment, il y a l'actualité immédiate avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, des décisions dont on était pourtant averti, mais quand on les voit se dérouler sous nos yeux, on a du mal à y croire.
Avec une telle ampleur, une telle rapidité.
Donc, moi, beaucoup de mes collègues, en quelque sorte, tombent des nues, même que ça soit envisageable. Donc, avec des programmes entiers de recherche qui ont été bloqués, sous prétexte qu'il faut vérifier que l'argent du contribuable ne sert pas à n'est pas gaspillé, en gros, c'est l'argument. Mais au-delà de ça, avec des projets de recherche qui sont avant même d'être évalués, qui sont retoqués parce qu'ils contiennent des mots qui sont considérés maintenant comme bannis.
dans ces genre, mots.
Genre, mais même propre, femme, égalité, enfin des mots qui...
Des mots banals et qui servent de clignotant négatif, de feu rouge dans la marche de la science, on peut le résumer comme ça.
Oui, exactement, et qui, où on voit concrètement que... Il n'y a rien de neutre, que l'argent du contribuable ici, c'est un beau prétexte, mais qu'en fait, derrière tout ça, c'est une bataille politique féroce qui est en train de se dérouler. Et notre analyse, je dis la nôtre, je parle avec mes mots, bien sûr, je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues qui ont co-signé la tribune, mais je pense que c'est une analyse partagée. C'est qu'aujourd'hui, c'est le savoir qui est au centre, enfin, oui, qui est un des nœuds, en fait, de cette bataille idéologique, contrôler le savoir à des fins d'empêcher, en fait, tout rétro-contrôle de la société sur ceux qui sont à même de prendre des décisions. Donc, c'est eux, ils veulent pouvoir contrôler, quitte à falsifier, ce qui doit être considéré comme vrai ou pas vrai, ce qui doit être considéré comme... licite ou pas licite, etc., etc. Donc évidemment, toute construction collective d'un savoir qui se veut réfléchi, qui se veut argumenté, pour ces gens-là, devient un problème.
Et un savoir partagé aussi, on y reviendra, la question des conditions dans lesquelles le savoir est partagé, parce que c'est un bien commun, comme la tribune le rappelle.
Absolument, oui.
Donc c'est sans précédent, on le sait bien, ça a pris une ampleur. Qui a conduit d'abord à la sidération assez générale, et maintenant ensuite des formes, je dirais, de réplique, de riposte, de lutte peut-être, face à ce phénomène. Alors, la tribune, donc, vous avez été un des signataires, dit notamment « post-vérité », c'est une citation, « faits alternatifs ». Alors, je rappelle que cette formulation de la justification de l'affabulation date du premier mandat de Donald Trump, de signe avant-coureur. Pression politique et financière, croyances érigées en certitude, complaisance médiatique, nouveau management public, bon, il faut dépenser moins, je résume, course au financement et à la notoriété, la liste est longue, dit toujours la tribune, des pratiques qui dénaturent l'acquisition et le partage du savoir au moyen des réseaux sociaux et de certains médias. Alors, ce descriptif, cette analyse, tente à démontrer que ce phénomène dépasse le domaine de la recherche. Il touche notamment l'information sous ses différentes formes. J'en sais quelque chose. Plus largement, c'est un grand enjeu démocratique. C'est bien ça, à votre avis, c'est ainsi qu'on peut résumer de la manière la plus lapidaire ce que la tribune développe.
Absolument, oui, bien sûr. L'information... en principe, dans un monde idéal, ça doit être ce qui permet aux gens de réfléchir. Donc ça doit être quelque chose d'argumenté. Et à partir de là, je pense que la production de savoir qui est produite par la recherche et transmise à l'université, elle fait partie de ce bien commun qui permet de construire une information fiable et digne de ce nom.
Sur lesquelles on peut s'appuyer, pour le coup, pour avancer, pour trouver des réponses, y compris à des problèmes de santé, mais pas seulement.
Bien sûr, oui. Voilà, donc fait partie des éléments de réponse que la collectivité peut apporter à différentes questions. Donc oui, je pense que la production du savoir fait partie de l'information, le droit à produire du savoir fait partie du droit à l'information. Les choses sont intimement liées. Et on voit bien qu'immédiatement derrière se profile la question de la démocratie.
Alors ça, c'est un des aspects marquants de la tribune. Il y en a d'autres, j'en citerai une espèce de... Je ne dis pas que c'est nécessairement nouveau, mais ça a pris, me semble-t-il, une ampleur sans précédent, de prise de responsabilité des chercheurs qui interviennent dans le champ du débat public. Et donc, ipso facto, la question qu'il pose prend cette dimension politique, idéologique et politique.
Oui, alors on est probablement dans un tournant, parce que pour des raisons historico-culturelles, beaucoup de chercheurs, pendant longtemps, ont adopté plutôt l'attitude neutre, tour d'ivoire un petit peu, ouais. On pourrait les qualifier... comme
c'est
ça.
Le reproche qui leur était parfois fait.
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je fais partie des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette position, consistant à dire, moi, je fais de la science, je produis de la connaissance, point. Le reste, c'est de l'interprétation, c'est de la politique et ce n'est pas mon rôle. Je pense que cette position est de moins en moins tenable de facto. Alors, elle sera encore tenue par beaucoup de gens. Hein. On n'est pas non plus en train de parler d'un renversement complet de la table sur ce sujet-là. Mais je pense que les gens voient bien que Alors l'exemple le plus emblématique aujourd'hui, c'est probablement celui du climat, qu'il y a un moment donné, produire de la connaissance pour que des gens se permettent à côté de dire exactement l'inverse,
oui.
au nom d'une autre connaissance, de connaissances alternatives, enfin Dieu sait quels arguments peuvent être utilisés, au nom de « c'est mon opinion » et donc elle vaut bien celle de centaines de scientifiques, ça pose un vrai problème et qu'on doit aller au-delà de la production de la connaissance, on doit aller la porter, la partager, et que le partage de la connaissance, et on retombe toujours sur les mêmes questions, est en soi un vrai enjeu démocratique.
Donc c'est ça, c'est en définitive votre démarche, et celle de bien d'autres, je l'ai dit, c'est un acte de citoyenneté, on peut le formuler comme ça, je suis chercheur, mais je suis citoyen, et donc mon travail fait à sa place dans le fonctionnement de la société, y compris dans son fonctionnement politique.
Absolument, enfin... Alors là, si je peux me permettre une note personnelle, moi, c'est exactement, vous posiez la question pourquoi je veux être chercheur, je me sens vraiment dans ce cadre.
Vous l'avez dit au début, c'est une forme d'engagement.
Oui, c'est une forme d'engagement. Je ne fais pas beaucoup de différence entre mon travail de chercheur, qui est un travail intellectuel de production de connaissances, et mon travail de citoyen, qui consiste aussi à chercher des solutions aux problèmes qui sont posés. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, c'est des problèmes de société, plus que des problèmes scientifiques, mais à un moment donné, c'est la même démarche.
Alors, quelques jours après votre tribune, un autre appel a été signé, je l'ai évoqué, par d'éminentes figures de la recherche, comme Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 pour ses recherches sur le sida, sauf erreur, ou les patrons actuels ou précédents de l'Institut national de la recherche de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, ou encore de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, maladies infectieuses émergentes. Alors, titre de cette nouvelle contribution au débat public, dans le prolongement de ce dont nous venons de parler, les décisions des États-Unis en matière de santé font peser de lourdes menaces sur le progrès et la coopération scientifique. Alors, je l'ai dit quand je vous ai présenté, vous l'avez précisé, vous conduisez une coopération à l'échelle européenne qui rassemble plusieurs centaines de chercheurs. Dites-nous comment ce type de collaboration naît, comment elle s'organise, la coopération. Et bien sûr, en quoi elle est indispensable, voire décisive, la coopération.
Oui.
Bon, elle n'est pas récente, hein, je dirais. Bon, les formes de coopération scientifique internationale ne datent pas de ces dernières années, mais pour le coup, il me semble qu'elles se sont développées. Elles ont peut-être pris un enjeu, la dimension de l'enjeu est peut-être plus grande. En tout cas, comment ça se passe
là? Je pense que ça a toujours été le cas, c'est la démarche même de la recherche scientifique. Simplement, il y a plus d'ampleur, il y a plus de monde impliqué aujourd'hui. Donc c'est une échelle un peu différente, mais fondamentalement, nos illustres ancêtres du début du XXe siècle, ils se réunissaient aussi dans ce qu'on appelle des congrès scientifiques. Alors, pourquoi c'est important? Je dirais la réponse simple, et je pense que tout le monde au niveau personnel peut le comprendre, c'est qu'on ne réfléchit pas très loin quand on réfléchit tout seul. Ou alors on réfléchit toujours dans le même sens et au bout d'un moment, notre réflexion va s'arrêter si elle n'est pas alimentée par celle de gens qui se préoccupent de mêmes questions, mais souvent
avec un autre angle,
avec une autre approche, etc. Et c'est un enrichissement permanent. Ces gens-là aussi, de leur côté, font leur recherche, produisent des nouveaux résultats qui alimentent notre réflexion, ainsi de suite. Donc, par définition, je dirais, le travail scientifique s'appuie sur la collaboration, sur le débat contradictoire. C'est aussi une question très importante, le débat contradictoire, puisque c'est ce qui permet, in fine, d'éliminer les erreurs quand il y en a qui sont produites.
C'est ça. Donc, c'est donc le débat contradictoire qui produit le progrès de la recherche.
Est-ce qu'on de la connaissance.
De la connaissance, en tout cas. Oui. Mm-hmm. Alors, en espèce, dans l'opération européenne que vous animez, là, comment ça s'est passé? Comment le projet a été monté? De quel il résultait, j'imagine, de l'identification d'un besoin et où donc il y a un champ de recherche spécifique, hein, délimité, qui a été tracé. Et ensuite, différents contributeurs se sont rassemblés. Racontez-nous cette petite histoire.
Mais vous avez résumé. En fait, ça a commencé...
Il y a plusieurs années,
oui. Un peu localement. Avec des collègues, on travaillait dans le même domaine, on disait il faudrait qu'on discute plus ensemble, etc. Bon, à l'époque, on n'avait pas les outils comme tout ce qui permet de faire des discussions online, des vidéos online. Donc on a commencé à monter des réseaux sans financement, mais avec l'idée de pouvoir se réunir à intervalles réguliers. Et puis ça a grossi. On a ensuite rejoint un autre réseau qui s'était monté en Espagne. À partir de là, il y a eu cette opération. Alors COS, c'est un truc un peu particulier, parce que c'est financé par la Commission européenne, mais fondamentalement, c'est une association de pays. Alors c'est même un peu plus large que la communauté européenne en termes de pays. Puisqu'on trouve
oui, c'est le cas dans l'aéronautique, par exemple, dans la conception.
Voilà.
Ou dans la recherche, dans d'autres domaines de la recherche, il y a ce forme qui se restreint pas à l'Union européenne dans sa configuration actuelle.
Non, c'est ça, ça va un peu de là. Du coup, cette association de pays émet ce qu'on appelle des appels d'offres en proposant des financements sur la base de projets qui doivent être soumis et répondre aux demandes de cet appel d'offres. Et en l'occurrence, les appels d'offres de COST tournent autour de ce qu'on peut appeler le networking. C'est-à-dire que ce que fait notre association, notre réseau, c'est essentiellement d'organiser des congrès et d'organiser des échanges entre laboratoires, permettre à des étudiants d'un laboratoire de passer plusieurs semaines dans un autre laboratoire pour développer ou apprendre une nouvelle technique, etc. etc. Donc, c'est le gros de nos actions. On fait évidemment d'autres choses. On fait ce qu'on appelle des séminaires maintenant online qui permettent un peu à tout le monde de se connecter et de suivre. Donc, ça évite d'avoir à se déplacer dans des congrès internationaux, par exemple. On essaye de faire des formations, enfin voilà, toute une série d'activités qui permettent, et ça je pense que c'est très important parce que bon, vous avez mentionné le nombre, on est à peu près 400. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas 400 personnes qui sont complètement impliquées dans ce réseau. Oui. Mais mine de rien, au fil des ans, on a regroupé probablement à peu près une centaine de chercheurs qui... Voilà, qui apprécie ce réseau, qui apprécie de pouvoir se rencontrer.
Chacun tire profit.
Voilà, parce qu'à la différence peut-être des congrès organisés par des congrès internationaux organisés par des plus grosses structures, où en gros les gens y vont pour montrer leurs muscles. Nous, on organise des congrès pour pouvoir se rencontrer, pour discuter, pour
plus
savoir...
modestement peut-être, enfin, de manière moins spectaculaire.
Mais... Voilà, et du coup, c'est beaucoup plus convivial et finalement, on apprend souvent beaucoup plus de choses puisqu'on a des discussions très libres.
Voilà, donc cette méthode a apporté ses fruits.
Oui, en tout cas, définitivement, elle intéresse. Enfin, je pense que ça a permis vraiment de lier un noyau important dans ce domaine de recherche. Et bien sûr, on espère pouvoir continuer. Parce que alors, ce sont des financements limités dans le temps, malheureusement.
J'imagine. Alors, question corollaire. Dans notre pays où la place se fait aux étrangers est mise en cause par une partie des responsables politiques, est-ce que la libre circulation des chercheurs, vous venez de l'illustrer, la forme que vous avez dite, mais aussi d'un pays à l'autre, est-ce que cette libre circulation est réelle? Et est-ce que l'accueil de chercheurs étrangers en France peut être menacé ou risque de l'être? Est-ce qu'il y a des frilosités qui se manifestent en la matière?
Oui, alors, moi, je dirais que oui. Pour l'instant, comment dire... Alors, il y a un cas assez net, ça a été la rupture de toute collaboration avec la Russie, par exemple. Oui. Alors, on peut considérer que c'est justifié ou pas, je ne veux pas du tout rentrer débat. Mais là, clairement, il y a eu une restriction très, très forte et des projets de recherche qui ont dû s'arrêter du jour au lendemain. On voit aussi maintenant, dans nos laboratoires, qu'administrativement, il devient beaucoup plus compliqué d'accueillir certains étudiants. Alors, ce n'est peut-être pas au stade chercheur, quand les gens sont établis, peut-être que les choses sont un peu plus faciles. Mais nous, on voit concrètement au niveau de l'accueil d'étudiants qui voudraient faire des stages dans nos laboratoires. Quand ils viennent de certains pays, du sud, ça devient beaucoup plus difficile administrativement.
Alors, avant une dernière question, toujours pour regarder quand même ce qui se passe en France, la question du financement de la recherche. Est-ce que, à vos yeux, la recherche dispose des moyens nécessaires, qu'ils soient publics ou privés, quoi? Je pense, entre autres, à la situation des jeunes chercheurs, les doctorants, qui, on peut le dire, travaillent et vivent dans des conditions précaires.
Alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est le financement global, très insuffisant. En France, on tourne péniblement un peu au-dessus de 2% du PIB, 2,1 je crois. En gros, c'est 1% qui est consacré à la recherche publique et un peu plus qui est à la recherche privée. C'est très, très inférieur à ce que font
des pays occidentaux,
les pays lesquels on nous demande de nous comparer. Donc, évidemment, et en plus, ce n'est pas d'hier, donc on vit dans une pénurie chronique, un manque de moyens chronique qui se fait vraiment, vraiment ressentir maintenant. Et sur le statut des plus jeunes, la précarité, je dirais en tout cas dans les sciences qu'on appelle dures, entre guillemets, les doctorants aujourd'hui, ils ont un statut qui leur permet de toucher un salaire. Mais par contre, leur futur est complètement obscur, quoi. C'est-à-dire que...
C'est une grande incertitude sur leur devenir.
Voilà, on forme des gens sans pouvoir leur dire « vous ferez le métier que vous avez envie ». Que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, aujourd'hui, il y a très peu de place pour les jeunes qu'on forme.
Très bien. Alors, on l'a un peu évoqué, mais la question, j'y reviens. Est-ce que... À vos yeux, l'obscurantisme, le mot figure dans les appels de quelques-uns de vos collègues ou confrères. Est-ce qu'il y a une menace d'obscurantisme qui persiste? Bon, il me semble l'avoir vu dans l'épisode Covid, mais est-ce que cette menace, peut-être poussée par les vents venant de l'Ouest, persiste, voire s'aggrave?
Moi, je dirais qu'elle s'aggrave effectivement à partir du moment où il y a une petite musique consistant à dire... Mon opinion vaut celle de n'importe qui d'autre, n'importe quelle autre structure. Et ben la porte est ouverte effectivement à toutes les choses irrationnelles, à toutes les croyances. Et à partir de là, il est même difficile d'argumenter avec certaines personnes.
Oui,
à partir du moment où elles sont convaincues.
Oui.
Alors par exemple, pour prendre que cet exemple, les scientifiques font partie de ceux qui essayent de nous rouler dans la farine.
Oui.
Tout ce que vous pouvez dire va être de toute façon traduit en termes de « au moins, tu me racontes n'importe quoi, tu essayes de me rouler dans la farine ». Donc oui, effectivement, ça devient très très dur. Et à ce moment-là, on va dire que le rationnel du débat prend un sacré coup, quoi.
Alors, pour finir notre échange, je vous en remercie, hein, Olivier Coux. Quelle est l'idée reçue, on l'a un peu évoqué mais allusivement, l'idée fausse sur la recherche ou les chercheurs que vous rencontrez dans vos parcours, dans votre entourage qui vous exaspère et que vous dénoncez, que vous efforcez de combattre, l'idée fausse?
Alors, curieusement, moi j'aurais tendance à dire que, semble-t-il au moins, qu'en France en tout cas, les chercheurs gardent encore une relative... bonne presse.
Oui.
Par contre, depuis tout le temps, depuis longtemps, on subit, il y a à nouveau une petite musique consistant à dire qu'on est des fonctionnaires payés à ne pas faire grand-chose, etc., etc. Ce qui vraiment est une contre-vérité quand on voit le travail qui est fourni à la fois dans les labos de recherche et dans les universités, notamment pour pallier à tous les manques criants dans le fonctionnement. Moi je pense que nous travaillons, nous essayons et la plupart des gens véritablement de manière sincère et en donnant beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, on essaye de faire augmenter le niveau de connaissance et de le partager au maximum. Et je pense de ce point de vue là je reviens un peu à ce que je disais au début, je pense qu'on contribue à faire avancer quelque part l'humanité, même si c'est un peu grandiloquent dit comme ça, je dois le reconnaître.
Oui, je voulais poser une question sur les valeurs. Vous y venez, c'est bien ces valeurs fondatrices là, sur lesquelles nous pouvons conclure.
Est-ce que je peux juste rajouter un dernier mot? Parce que depuis que notre tribune, il y a une nouvelle action donc, qui a été initiée au début aux États-Unis, qui s'appelle Stand Up for Science. Le 7
debout
mars.
Debout pour la science, c'est ça?
Debout pour la science. Et alors, du coup, c'est repris en France. Et il y a un autre mouvement qui s'organise à l'initiative, là encore, de gens importants dans la science, de manière à la fois en soutien à ce qui se passe, en soutien des scientifiques américains, mais aussi pour les problèmes particuliers qu'on a en France et qui, d'une certaine manière, à une moindre échelle, ressemblent quand même assez fort à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a donc un appel aussi à se mobiliser le 7 mars en France.
Et ça peut concerner aussi les citoyens de base, je dirais, les bénéficiaires futurs de la recherche.
Ah bah écoutez, voilà, debout pour la science, ça interpelle tout le monde, je pense.
Très bien. Je vous remercie, Olivier Coum.
Merci à vous.
Fois. Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.